Vous écoutez RTL.
Posez toutes vos questions à Manuel Valls, Premier ministre, au 3210.
Prenez la parole sur RTL.
RTL 8h18, Philippe Corbet.
Guillaume nous a appelé au 3210. Bonjour Guillaume.
Bonjour Philippe et bonjour Monsieur le Premier ministre.
Bonjour monsieur.
Vous avez une question à Manuel Valls.
Absolument. Écoutez, Monsieur le Premier ministre, c'est un plaisir de vous avoir au téléphone ce matin. Tout le monde a reconnu votre gestion exemplaire des terribles événements historiques dont la France a été la triste victime, et nous entendons bien ce matin votre grande détermination. Mais vu de loin, nous ne voyons pas d'action musclée contre le communautarisme, pas de message réellement audible du gouvernement sur la radicalisation islamiste qui s'étend sur le territoire. Donc, allez-vous laisser le champ libre au Front National qui, chaque jour, grappille des voix au point d'être sûr d'être élu en 2017? Ou alors, allez-vous vraiment taper du poing sur la table au point que le bruit, la résonance soit assourdissante pour les islamistes qui attaquent nos sécurités individuelles et notre République?
Guillaume, nous avons déployé des moyens très importants, sans précédent, depuis évidemment les événements que nous avons connus, je ne vais pas les rappeler, mais enfin, plus de 10 000 militaires, des policiers, des gendarmes présents. Nous sommes en train de renforcer, cela avait déjà commencé avant, quand j'étais ministre de l'Intérieur, et Bernard Cazeneuve a poursuivi ce travail. Nous avions déjà renforcé nos services d'enseignement, réformé en profondeur la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, c'est-à-dire nos services de renseignement, et nous allons ainsi continuer. Nous donnons plus de moyens à ces services de renseignement. Et puis nous mettons en place des dispositifs de contre-radicalisation. Mais au-delà de tous ces moyens de prévention, ces moyens répressifs, le fait que nous sommes évidemment extrêmement déterminés à lutter contre ces filières djihadistes. Je rappelle qu'il y a 1400 Français ou résidents en France qui sont concernés par des départs en Syrie ou en Irak. Et le parquet antiterroriste agit là aussi avec beaucoup de sévérité. Là, vous avez raison, c'est que ça va au-delà de ces dispositifs. Et c'est toute la société qui doit se mobiliser pour imposer ce qu'est la France, tout simplement. La République, l'amour de la nation et de la patrie, la fierté d'être français, la laïcité, le fait qu'on refuse le communautarisme, c'est-à-dire qu'on refuse qu'une religion impose sa vision aux autres. Et nous avons trop laissé, au cours de ces dernières années, ces thèmes à la droite extrême ou à l'extrême droite. Donc il faut que tous les républicains, pour ce qui me concerne bien évidemment la gauche, mais je ne suis pas sectaire, donc tous les républicains portent haut et fort les couleurs de la France et ne laissent plus rien passer quand on s'attaque à la République, quand on veut imposer son communautarisme ou évidemment quand on tient des propos antisémites.
Il y avait quand même une dimension dans la question de Guillaume importante. Guillaume dit que la victoire du Front National est possible en 2017. Est-ce que vous pensez que c'est aussi possible?
Mais il y a danger. Quand le Front National fait 25% aux élections européennes, quand dans les enquêtes d'opinion il est donné autour de 30%, bien sûr qu'il y a une dynamique. Mais ce qui a changé, me semble-t-il, c'est que face à cette force du Front National, il y a une autre force qui s'est levée. C'est la République. Mais là aussi, soyons sincères, je le dis souvent, nous sommes sur le fil du rasoir. Soit il y a une réponse, et c'est une réponse autoritaire, contraire aux valeurs de la République, qui divise, qui augmente les fractures que notre pays connaît, qui repliera la France sur elle-même, qui la détachera de son histoire, de son lien avec l'Europe, ça c'est le Front National.
Soit c'est pas la République.
C'est la réponse du Front National. Le Front National est une formation politique qui agit dans le cadre national.
Républicaine ?
Je crois qu'elle est contraire aux valeurs de la République, cette force. Et je crois que le Front National n'aime pas la France. Je crois que ses propositions détruiraient ce que nous sommes. Et la couperait encore une fois de son projet historique et de sa place en Europe et dans le monde. Et soit il y a une réponse qui fait de l'autorité une valeur, qui combat le terrorisme et les communautarismes avec beaucoup de détermination, qui porte haut les valeurs de laïcité. Une République donc très ferme et en même temps généreuse et bienveillante. Parce que notre pays a aussi besoin de fraternité, avec lucidité, sans excuses. Mais on a aussi besoin d'égalité, de solidarité, de justice sociale. Ce pays a besoin de travail, d'emploi, de redonner un espoir à la jeunesse. Et c'est cette réponse que nous voulons avec le président de la République incarner.
À propos, vous parliez d'emploi. On a des questions nombreuses par SMS, Manuel Valls, concernant le travail du dimanche. Notamment une question de Grégory qui nous dit qu'il est contre le travail du dimanche. C'est compliqué d'avoir une vie privée. Il ne sait pas comment il pourrait faire garder son fils s'il est obligé de travailler le dimanche, lui et sa femme. Qu'est-ce que vous répondez à tous ces gens qui savent très bien qu'au fond, ils n'auront pas vraiment le choix de pouvoir s'opposer au travail du dimanche si leur patron le leur demande.
Mais il y a déjà près d'un tiers de nos concitoyens qui travaillent dans le public ou dans le privé, de manière régulière, occasionnelle, le dimanche. Et la loi qui va être votée demain, celle qu'a portée avec beaucoup de talent Emmanuel Macron, c'est une loi qui remet précisément des règles et de la justice et de la compensation pour les salariés qui travailleront le dimanche. Et cette loi permettra de générer aussi plus d'activités et plus d'emplois, de laisser plus d'initiatives locales aux collectivités territoriales, mais avec des contreparties obligatoires pour tous les salariés qui travaillent le dimanche et des garanties pour le volontariat, quel que soit l'endroit où ils travaillent. Et une exigence de dialogue social, parce que c'est par désaccord dans les entreprises ou sur les territoires, au plus près du terrain, que doivent se définir les contreparties. Je vous prends un exemple, avec un paiement double. Pour un vendeur d'un grand magasin qui travaille 8 heures le dimanche, cela fait plus de 500 euros sur le mois. Et bien sûr, il a droit à un repos compensateur. Donc, il y a des droits qui ont été donnés aux salariés qui n'existaient pas. Et en même temps, cette loi permet de libérer les énergies et c'est un coup de jeune pour notre pays.
On a une autre question qui là vient sur notre site internet rtl.fr. Question de Pascal. Comment comptez-vous faire baisser le chômage? Parce que là, je cite, c'est mal barré quand vous interdisez des gens de bosser. Et Pascal fait référence à l'histoire de ce boulanger qui va devoir fermer un jour par semaine alors qu'il ouvrait 7 jours par semaine. Il va donc devoir licencier selon lui.
Mais parfois, nous sommes au pays du but. Et l'exemple de ce boulanger en est une belle illustration. C'est pour ça que précisément, et je réponds à cet auditeur, c'est pour ça qu'il faut davantage évaluer la loi quand elle ne fonctionne pas bien, et de l'autre côté, en même temps, libérer les énergies. Le chômage, ou la lutte contre le chômage et l'emploi sont nos priorités. Le seul moyen de faire baisser le chômage et créer de l'emploi, c'est de soutenir les entreprises. Pas les chefs d'entreprise seulement, les entreprises qui sont composées de chefs d'entreprise, de cadres, de salariés, d'ouvriers. C'est le seul moyen, et je pense notamment aux PME, aux PMI, à ces entreprises intermédiaires, mais aussi à nos start-up qui sont nombreuses, parce qu'il y a beaucoup de force dans notre innovation et dans notre recherche en France. Donc il faut soutenir la compétitivité de nos entreprises, faire baisser le coût du travail, c'est ce que nous avons fait avec le pacte de responsabilité et de solidarité, avec la montée en puissance du CICE. Tout cela est rentré dans les faits depuis le 1er janvier, libérer davantage notre économie. Parce que oui, la priorité, c'est toujours l'emploi, l'emploi, l'emploi. Et moi, j'espère que cette année 2015, ça sera l'année de la reprise, de la création d'emplois. Nous avons un contexte économique international avec la baisse de l'euro, avec la baisse des taux d'intérêt, avec le niveau du baril du pétrole, qui nous permettent, je crois, d'avoir davantage d'optimisme. Mais le gouvernement est bien sûr très soucieux de tout faire pour soutenir les entreprises afin qu'elles embauchent. Il y a eu un pacte. Maintenant, il y a des aides aux entreprises. Il faut embaucher, il faut redonner confiance au pays.
Manuel Valls, on va prendre un autre auditeur au 32-10. Bonjour, shérif.
Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Valls.
Bonjour, monsieur.
Vous voulez revenir sur ces questions de terrorisme, shérif?
Oui, ça concerne l'État islamique Daesh, monsieur Valls. On a appris sur l'antenne d'RTL il n'y a pas longtemps que Daesh a publié, si on peut s'exprimer ainsi, son premier bilan. 2 milliards de chiffres d'affaires, quelques millions de bénéfices. On a attribué ça au pétrole. Je me demande comment ces gens-là, ils arrivent à acheminer du pétrole, vendre du pétrole sur le marché international, encaisser de l'argent pour acheter des armes et financer leurs opérations. Comment nous n'arrivons pas à contrer cela? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce qu'il y a des raisons, si vous voulez, stratégiques ou géopolitiques qui font que Daesh est encore là après tout ce temps-là? Nous savons, et ça c'est pas un secret, que notre allié américain avait un projet qui s'appelait le Big Middle East, défendu par Condoleezza Rice à l'époque, qui consiste à refaçonner le Moyen-Orient. Est-ce que cela en fait partie? Voilà.
Il faut combattre Daesh par différents moyens. Je vous rappelle que la France participe à une large coalition avec des pays du Proche et du Moyen-Orient, avec d'autres pays, les États-Unis, le Danemark par exemple, intervient avec ses Rafales et ses Mirages en Irak pour porter des coups décisifs à la demande des autorités irakiennes, à la demande des Kurdes, puisqu'il faut faire reculer Daesh, qui n'est pas qu'une organisation terroriste, qui s'est installée sur un territoire, et notamment qui a pris possession d'un certain nombre de prix de pétrole. Donc il faut que tous les pays, notamment de la région, jouent le jeu et luttent contre Daesh. Et de l'autre côté, il faut
y
évidemment...
Y compris le Qatar.
Tous les pays de cette région, le Qatar, la Turquie, tous...
Parce qu'on a toujours des doutes sur le rôle que joue le Qatar, qui d'un côté exprime à l'Occident qu'elle se bat contre le terrorisme islamiste, et de l'autre est suspecté de financer en sous-main un certain nombre de réseaux islamistes.
Non mais il ne peut pas y avoir de doute en l'occurrence, et s'il y a des doutes, ils doivent être évidemment levés. Mais il faut, et c'est ce que fait la France, lutter à la fois sur le terrain, à travers nos avions, mais aussi assécher les financements de cette organisation dont nous connaissons, bien sûr, l'horreur, la terreur qu'elle répond. Regardez ce qui s'est passé encore ces dernières heures avec ces images insupportables, insoutenables de chrétiens coptes, de chrétiens égyptiens qui ont été massacrés comme d'autres l'ont été, des personnalités politiques, des personnalités intellectuelles, des journalistes, des artistes sont aussi menacés dans le monde et donc en France. Donc oui, c'est une guerre. Puisqu'ils nous font la guerre. C'est une guerre contre le djihadisme, le terrorisme, contre cet islamisme radical, contre cet islamo-fascisme que j'ai évoqué. Et cette guerre, nous devons la mener partout, à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, en désignant cet ennemi, c'est-à-dire le djihadisme.
On va en parler d'ailleurs dans un instant avec Arnaud au 3210, qui a une question pour vous. On se retrouve dans quelques secondes.